À voix nue, Caroline Brouet.
Lilian Thuram, ancien joueur de foot de l'équipe de France. Aujourd'hui, fondateur d'une fondation éducation contre le racisme. Je suis le papa de deux garçons et le mari de Karine Guioc.
Quatrième épisode, un autre imaginaire. Bonjour Lilian Thuram.
Bonjour.
Dans le troisième épisode, nous avons parlé de votre expérience du racisme et de la nécessité de le comprendre pour le combattre, à travers notamment La pensée blanche, c'est un essai paru en 2020, qui a jeté un pavé dans la mare, le pavé dans la mare de la déconstruction de l'identité blanche. À la fin de l'épisode, je vous ai posé une question, comment s'y prendre, comment sortir de la prison identitaire et de ce qu'on peut appeler les schémas mentaux dans lesquels nous avons grandi. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans ce quatrième épisode aujourd'hui, à travers notamment l'action que vous menez à la Fondation, Fondation que vous avez créée en 2008 et qui a pour nom Éducation contre le racisme. On est dans vos locaux d'ailleurs, dans les locaux de cette Fondation. On est dans le bureau. Il y en a plusieurs. Il y a comme un petit salon. Il y a plusieurs bureaux. Très agréable, c'est cet endroit. Vous vous sentez comme chez vous ?
Totalement. J'espère qu'il y a des bonnes ondes.
Décentrer le regard, regarder le monde autrement, c'est ce que vous faites donc au sein de la Fondation à travers un certain nombre d'interventions sur lesquelles on va revenir. Mais pour bien comprendre comment vous vous y prenez, Lilian Thuram, je vous propose de faire un exercice que vous faites vous-même régulièrement et en particulier que vous avez fait dans La pensée blanche, encore ce livre-là. Au cœur de La pensée blanche, il y a un tableau. Le tableau, c'est le châtiment des quatre piquets dans les colonies de Marcel-Antoine Verdier, un tableau peint en 1843, qui était aussi dans la grande exposition, le modèle noir, au musée d'Orsay en 2019. Alors déjà, que représente ce tableau ? Je vais vous le mettre sous les yeux, comme ça, ce sera plus simple, même si là, il est en noir et blanc.
Alors, il y a un homme noir qui est à terre, attaché par les deux bras, les deux jambes. Et il y a un autre noir qui le fouette. Et puis on voit au loin d'autres hommes noirs qui vont arriver pour subir le même châtiment. Et ce qui est très marrant, c'est que sur le côté gauche, on ne voit pas tout de suite cette famille, et notamment un enfant blanc, qui, ne comprend pas la violence, en fait.
Ça, c'est vous qui le dites, mais on le voit pas encore. Ça, c'est l'interprétation. Mais il est sur les genoux d'une femme.
Oui, blanche, mais aussi. On voit par la posture du corps recroquevillé qu'en fait, qu'il est dans une situation de terreur. Et surtout, elle est sur une dame blanche qui, je pense, doit être sa maman. Et là, il y a une femme noire agenouillée qui essaye de tranquilliser cet enfant en lui disant « Calme-toi, il y a rien, il ne se passe rien de grave en fait. Ce n'est que un esclave qu'on fouette, un homme qui n'a pas accepté ce qu'on lui a demandé de faire. Donc ça veut dire que quelque part c'est un mauvais homme. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que l'homme blanc est adossé à, je ne sais pas, une case peut-être, et très tranquille, très serein. En fait, il a l'habitude de cette scène. Et d'ailleurs, on voit que c'est lui, en fait, le chef de la situation. Et ce qui est très intéressant, c'est que la femme noire agenouillée, noire, qui sûrement ressent en elle la violence de ce qui se passe, est obligé de rassurer cet enfant. Et qu'est-ce qui va se passer ? Dans quelques années, cet enfant sera habitué à la violence qu'on fait aux personnes noires. Donc c'est pour cela que je dis que, en fait, c'est une éducation. On peut être éduqué à accepter la violence, on peut être éduqué à accepter tout, en fait. C'est pour ça qu'il faut questionner notre éducation. Qu'est-ce que on accepte qu'on ne devrait pas accepter. Et c'est pour cela que je dis que très souvent, lorsqu'on parle du racisme envers les personnes noires, il faut savoir que c'est quelque chose qui est inscrit au plus profond de notre culture. Le mépris des personnes noires, en fait, C'est ouais, c'est dans l'ADN de cette culture monde. Parce qu'encore une fois, dans la hiérarchie selon la couleur, les noirs sont tout en bas. Donc ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas noirs sont éduqués à se penser supérieurs aux personnes noires, sont éduqués à travers que le mépris vers les personnes noires, c'est quelque chose d'acceptable.
Alors comment on regarde ce tableau, selon vous, et comment le voir autrement ? Le voir autrement, c'est voir ce petit enfant de couleur claire, de couleur blanche, qui est effrayé, ou c'est regarder la mère qui ne fait rien, ou c'est regarder cette femme agenouillée qui essaye de rassurer l'enfant. Ou bien c'est encore regarder au premier plan un autre enfant qui, lui, est de couleur noire et qui regarde la scène. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous regarder ce tableau autrement ?
Regarder le tableau autrement, c'est changer de point de vue. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de dire, c'est analyser le tableau à travers les yeux de tous les personnages. Et ce qui est très intéressant, et vous l'avez noté, tout en bas à gauche, il y a un petit garçon noir qui regarde.
Qu'on ne voit pas tout de suite, hein, d'ailleurs.
Qu'on ne voit pas. Qui regarde cette scène et qui doit analyser. D'ailleurs, il est assez tranquille, hein. Personne ne le rassure. Et il doit se dire que c'est normal. Par contre, lui, il va se dire, moi, je voudrais jamais être celui qui est fouetté. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument que je comprenne qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Mais celui qui est fouetté, qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il revendique ? La liberté. Et donc, ça veut dire qu'on éduque les personnes noires à avoir peur. À avoir peur du maître blanc. Le blanc parle, toi tu obéis. Et pour finir, je pense que la violence de ce tableau, c'est que le petit garçon noir est au même niveau que le chien. Et je pense que c'est pas un hasard. Parce que c'est un animal, lui aussi. Un animal qu'on va devoir éduquer comme le chien. Et ce qui est très intéressant dans ce tableau, c'est que ça raconte l'histoire du racisme. C'est que très souvent, on essaie de dire aux personnes noires, vous n'avez pas à revendiquer quoi que ce soit. Et les personnes noires doivent justement avoir le courage de demander l'égalité, de demander le fait de pouvoir avoir droit à tout, d'espérer tout. Mais pour le système esclavagiste, ça ne marche pas, en fait, que le noir veuille sa liberté, veuille l'égalité. En fait, il faut qu'il se soumette. Et donc, dans nos sociétés encore, on peut retrouver ces schémas de pensée, malheureusement.
C'est important de parler de ce genre de tableau et de la façon dont on peut le regarder à des enfants.
Complètement.
Comme vous l'avez fait.
D'ailleurs, c'était assez intéressant parce que je devais faire la visite de l'exposition
au musée d'Orsay.
Je choisissais les tableaux que j'allais présenter aux enfants. Il y a une dame qui m'a dit, mais ce tableau-là, il faut pas le montrer. Parce que c'est d'une grande violence et les enfants ne vont pas comprendre. Et je leur dis au contraire, il faut montrer ce tableau parce qu'en fait le racisme, c'est de la violence. C'est vraiment de la violence. Et je crois encore une fois que les gens ne saisissent pas la violence que produit le racisme. Et surtout la violence que ça produit chez les personnes qui sont méprisées. Et donc il faut parler de cela. Il faut parler. Et vous savez, moi, je pense qu'on peut parler de tout. Ça dépend, encore une fois, comment et dans quel but. Et le but, c'est toujours de comprendre les mécanismes et de faire en sorte que les gens perçoivent ce qu'ils ne perçoivent pas. Moi, je reste persuadé, peut-être que je me trompe, que la grande majorité des gens, en fait, mais ne comprennent pas ce qui se passe vraiment dans le racisme, dans le sexisme, dans l'homophobie. Je pense que la grande majorité des gens sont éduqués à ne pas voir certaines choses.
C'est pour ça que parfois vous poussez les gens dans leur retranchement, en les obligeant à se mettre,
à se
positionner différemment.
Mais vous êtes obligé.
C'est ce que vous faites avec la découverte de l'Amérique,
Christophe
Colomb. Vous nous racontez ce que
vous faites. Vous êtes obligé. Par exemple, quand je vais visiter les enfants, ça marche aussi avec les adultes, hein. Et donc, je leur demande, est-ce que vous connaissez Christophe Colomb? Ben, les enfants me disent, bah oui. Je dis, bon, c'est qui? Bah, c'est celui qui a découvert l'Amérique. Je dis, ah bon? Bon, écoutez, les enfants, on va faire un petit jeu. Fermez les yeux. Je sors de la classe. Et je reviens, j'ai dit, j'ai découvert la classe. Et là, les enfants, ils rigolent. Ils me disent, mais monsieur Thuram, c'est pas vrai. Je dis, si, j'ai découvert cette classe. Je dis, ben non, c'est notre classe. Je dis, non, mais n'importe quoi. Moi, j'ai découvert cette classe ce matin. Et ne commencez pas à raconter n'importe quoi. Je sais très, très bien que c'est pas votre classe. Et les enfants, donc après, on finit par rigoler. C'est juste pour leur faire comprendre qu'effectivement, à un moment donné, qui construit le discours? Et qui on a l'habitude d'écouter? Sachant que, ce que je dis aux enfants, vous savez, un mensonge raconté 100 fois devient une vérité. Et pourquoi j'essaie de dire ça aux enfants? C'est qu'ils puissent questionner aussi ce qu'ils écoutent. Pouvoir questionner le point de vue. Pourquoi il y a ce point de vue? Pourquoi cette personne dit cette chose-là?
Mais vous vous substituez à l'école, Lilian Thuram? Vous trouvez que l'histoire de la condition noire, l'histoire de l'esclavage n'est pas suffisamment enseignée à l'école pour que vous y alliez pour raconter? On n'en parle pas assez? C'est des trous de l'histoire? C'est des blancs de l'histoire que vous voulez noircir?
Mais tout d'abord, vous savez, moi, je reste persuadé que l'école ne peut pas résoudre tous les problèmes. Après, vous savez, on peut raconter l'histoire de l'esclavage, de la colonisation, mais tout dépend de quel point de vue et qu'est-ce que vous voulez que les enfants retiennent. C'est pas le but de remplacer ce que les enfants apprennent à l'école. C'est enrichir. Et je reste persuadé que moi, je me suis construit comme ça. C'est-à-dire, je me suis construit à travers des livres, à travers des rencontres. Et donc, effectivement, si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que aussi j'ai été joueur de foot professionnel. Donc, ça veut dire que lorsque je viens à l'école, c'est Lilian Thuram qui a gagné la Coupe du Monde. Et donc, ça veut dire que les enfants me regardent avec des grands yeux et écoutent. Et donc, ça veut dire que peut-être ça va les impacter différemment.
Et enrichir les connaissances, ça passe aussi par les imaginaires. Des modèles qu'on n'a pas assez. D'où mes étoiles noires, Lilian Thuram?
Ben oui, parce que encore une fois, je vous dis que le racisme, c'est avant tout à travers un traumatisme que vous rencontrez le racisme. Et un des traumatismes que j'ai eu enfant, c'est le jour où on a appris l'histoire de l'esclavage à l'école. Et là, tous les élèves se sont retournés contre moi. C'est-à-dire que les Noirs ont été des esclaves. Et donc, moi, je me suis dit déjà pourquoi ils me regardent. Après, je me suis posé la question, mais ils étaient où les Noirs avant? Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est quoi l'histoire des Noirs? Et la première fois, la grande majorité des gens, hein, parce que j'ai fait l'expérience, lorsque les enfants me demandaient de signer des autographes, je leur disais, voilà, ok, il n'y a pas de problème, est-ce que je peux vous poser une question? La première fois que vous avez entendu parler de l'histoire des populations noires, c'était quand? La grande majorité des gens, pour ne pas dire la totalité, vous répondent l'esclavage. Mais si, dans l'imaginaire collectif, l'histoire des populations noires commence par l'esclavage, mais c'est tout à fait compréhensible qu'il y ait des préjugés négatifs sur les personnes noires. C'est une évidence. Et donc, pour changer cela, il faut emmener des hommes, des femmes, d'autres histoires qui vont pouvoir enrichir l'imaginaire collectif. Nous ne pensons qu'à travers ce que nous connaissons. Donc, il faut enrichir nos connaissances pour penser différemment. C'est pas plus compliqué, hein. Ce que je pense, c'est lié à mes connaissances. Donc, si j'enrichis mes connaissances, je vais penser différemment. Et donc, effectivement, ça me semble juste surréaliste qu'à mon époque, en fait, mais il n'y avait pas de personnalité noire que je, où je, où, déjà, j'aurais pu m'identifier. Et surtout, ça permet aux autres aussi, qui ne sont pas noirs, de voir que l'intelligence se retrouve ben, chez tout individu. Et c'est pas lié à une couleur de peau, à une religion, à une sexualité. C'est exactement la même chose aussi, d'ailleurs, pour les femmes. Lorsque moi, j'étais à l'école, j'ai pas rencontré énormément de femmes qui ont pu faire des choses extraordinaires.
Vous voulez dire, on vous en a pas beaucoup parlé?
Ah, pas du tout. Je sais pas si ça...
Donc c'est quand même pour combler des manques. Guérir des blessures d'enfance et combler des manques que vous vous y prenez de cette façon-là, Lilian Thuram, aujourd'hui.
Mais vous savez, je pense que ce que nous sommes, lorsque nous sommes adultes, c'est lié à une histoire. C'est évident. Chacun de nous, nous avons un parcours qui raconte nos blessures, nos joies, nos espérances. Ouais, nous sommes le fruit de cette histoire-là. Je veux dire, c'est une évidence. Effectivement, lorsque vous êtes un jeune garçon noir et que vous découvrez la violence du racisme, vous essayez de comprendre. Et encore une fois, j'ai de la chance, hein, parce que j'ai fini par rencontrer des gens qui m'ont emmené à comprendre. Et donc, emmener à comprendre, c'est apprendre de la distance. C'est de ne plus souffrir de cela. Et la grande majorité des personnes noires n'ont pas ce parcours. Vous vous rendez compte quand même que j'ai été joueur de foot. J'ai subi le racisme en étant joueur de foot. Mais j'étais quand même joueur de foot. Donc j'étais apprécié, aimé, je gagnais très bien ma vie, j'étais estimé. Mais tout le monde n'a pas ce parcours. Et donc moi, aujourd'hui, je pense à tous ces hommes, ces femmes, ces enfants... sont dans une difficulté qui n'est pas reconnue parfois.
Lilian Thuram, vous intervenez dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, en France, dans le monde. Vous faites des conférences, des débats, des expositions. En 2012, vous avez été commissaire de l'exposition « Exhibition, l'invention du sauvage » au musée du Quai Branly. Et en 2018, vous avez été invité d'une carte blanche au musée de la Croix à Paris. Je n'en donne que deux, il y en a eu d'autres. Vous écrivez des livres, vous soutenez des manifestations contre les discriminations et pour les droits de l'homme. Tout est bon. Tout est bon. C'est-à-dire, il faut agir partout, avec tous les moyens qu'on a à notre disposition.
Oui, moi je pense que... Il faut croire en la justice. Je crois que c'est très important. Il faut croire qu'on peut rendre les choses plus justes. On peut améliorer ce monde. D'ailleurs, vous savez, en apprenant à connaître l'histoire, vous finissez par comprendre que, en fait, il faut très peu de gens pour changer les choses. Quand il y a une guerre, par exemple. Les résistants. En fait... Ils sont moins nombreux que ceux qui collaborent ou ceux qui ne s'intéressent pas à la chose. Et donc, moi, j'ai appris ça. J'ai appris qu'effectivement, chaque génération, il y a eu des hommes et des femmes qui ont fait en sorte de se battre pour qu'il y ait plus d'égalité dans la société. Et si aujourd'hui, je suis dans cette société-là, je suis redevable de quelque chose. Et je dois absolument... le faire, parce qu'il y a des gens qui l'ont fait pour moi, et nous devons le faire pour les générations futures. Ça, c'est quelque chose que je ressens vraiment. C'est-à-dire que j'ai un respect total pour les ancêtres qui ont pu, effectivement, faire des choses pour améliorer la vie des êtres humains. Je dis bien la vie des êtres humains.
Vous vous sentez en dette ?
Oui, totalement. Totalement. Je suis redevable à tous ces enfants qui vont souffrir du racisme. Mais c'est pas juste, en fait. C'est pas juste. Je pense que c'est pas juste qu'il y ait des personnes qui souffrent alors qu'ils n'ont rien fait. Ça n'a aucun sens, en fait. Et il faut justement les éduquer à ne pas accepter. Il faut les éduquer à être des résistants.
En fait, vous êtes un père.
Exactement. Totalement. Moi, je pense que être papa, c'est prendre soin de ses enfants. Être papa, c'est être là pour ses enfants. Peut-être que là, vous êtes en train de m'analyser, là. Parce qu'en fait, la pire des choses, je pense que c'est l'absence. Voilà. Et l'absence, c'est laisser faire la vie ce qu'elle veut de vous. Mais en fait, il faut dire aux gens, vous n'avez pas à accepter les injustices. Non, vous n'avez pas à accepter.
Éduquer passe aussi par la musique. Il se trouve que la Fondation parraine l'Orchestre Demos. C'est un formidable projet, l'Orchestre Demos, qui a été créé en son temps par le Conseil de création artistique, initié par la Cité de la Musique et la Philharmonie de Paris. Et c'est un projet qui est destiné à des jeunes des quartiers défavorisés. Vous nous en parlez, Lilian Thuram ?
Écoutez, tout d'abord, lorsqu'on m'a demandé d'être le parrain de Demos, je me suis dit, c'est une blague, pourquoi ils viennent me chercher ? C'est-à-dire de la musique classique. Et je me suis dit, peut-être qu'ils sont au courant de quelque chose. Lorsque j'étais en classe de CM2, il y avait Madame Billard qui mettait de la musique classique tous les vendredis après-midi. Et j'adorais ça. Mais vraiment. Mais comme j'étais un garçon stupide, comme on est enfant, on peut être stupide, je n'osais pas dire que j'aimais la musique classique. Parce que je me disais que si je disais à mes copains que j'aime la musique classique, ils vont me regarder bizarrement en disant « Mais t'es sérieux, toi ? C'est quoi cette musique ? C'est pas pour nous, en fait. » Et donc, j'ai jamais dit à mes copains, lorsque j'étais enfant, que j'aimais la musique classique. Et donc, quand ils sont venus me chercher, et je leur ai dit avec joie, parce que ça me paraît essentiel de dire aux enfants, surtout aux enfants dits défavorisés, que la musique classique est pour vous. Parce que tout est pour vous. Et ne vous mettez jamais de limites. Parce que très souvent, lorsque on vient de milieux dits défavorisés, la société vous éduque à vous penser un peu moins, à vous penser comme ayant un espace bien déterminé. Et donc, Demos, c'est juste incroyable parce que les enfants reçoivent des instruments qu'ils choisissent eux-mêmes et pendant plusieurs années, ils peuvent apprendre, accompagner avec des profs. Et puis surtout, ils peuvent jouer en orchestre. Et chaque année, il y a une restitution à la Philharmonie de Paris. Et donc, c'est juste incroyable parce que c'est un cadeau de vie. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez avoir accès à ce que vous avez envie. Et apprendre à jouer d'un instrument, c'est apprendre à apprendre. C'est pour ça que moi, je trouve que l'éducation, la culture, tout est... Lorsqu'on donne aux enfants l'idée que tu peux y arriver. Quand vous prenez un instrument, vous devez passer du temps pour maîtriser l'instrument. Et donc, ça veut dire que vous comprenez que pour apprendre, il faut passer du temps à faire quelque chose. Pour apprendre, il faut se tromper, parce qu'on va se tromper. Et lorsqu'on passe beaucoup, beaucoup de temps, on finit par y arriver. Et donc, ça veut dire que, même s'ils ne vont pas continuer la musique classique, en fait, ils ont appris un mécanisme qu'ils vont pouvoir reproduire.
Il en restera toujours quelque chose.
Exactement. Et donc, c'est pour cela que Demos, c'est juste incroyable. Et surtout, lorsque il y a les restitutions en fin d'année, lorsque vous voyez les yeux des parents, c'est juste incroyable. Parce que ça aussi, c'est très intéressant, c'est qu'il faut aussi s'occuper des parents. Et là, nous arrivons à toucher ce qui est le plus important pour moi, chez l'être humain, et notamment chez l'enfant, comment on développe l'estime de soi. Parce que c'est ça qui fait la différence. Qu'est-ce que vous pensez de vous-même ? Et si vous avez une bonne estime de vous-même, vous n'avez pas de limite. Parce que vous acceptez le fait que, pour arriver, je vais me tromper, mais c'est pas grave. Et ce qui est aussi très intéressant dans Demos, c'est que vous êtes obligé d'écouter les autres lorsque vous jouez en orchestre. Et lorsque vous avez la capacité d'écouter l'autre, vous allez vous enrichir à un point que vous n'imaginez même pas. Et encore, dans Demos, il y a la relation avec les éducateurs, avec les profs. Ça veut dire que pour apprendre, j'ai besoin d'autres personnes. Et comme nous sommes dans une société parfois qui me fait peur, bon là j'ai l'impression de vieillir, hein, quand je commence comme ça, ça veut dire que je deviens vieux. Et donc c'est, on a l'impression qu'on dit aux plus jeunes, en fait vous ne pouvez que compter sur vous-même. Mais c'est pas vrai ça. On n'est rien sans les autres. On n'est rien sans les autres. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous avez besoin d'autres qui vont vous mettre sur le chemin pour pouvoir faire en sorte que vous alliez aller plus loin, voilà.
Votre fondation a été créée en 2008. Nous enregistrons ces émissions en 2024. Ça fait donc un tout petit peu plus de 15 ans qu'elle existe. Est-ce que vous êtes content des résultats ou est-ce que ce n'est pas encore assez pour vous ?
Alors, lorsque nous avions parlé du foot, je vous avais parlé du fait d'être dans l'insatisfaction. Ben un peu, c'est la même chose, c'est-à-dire que parfois je me dis que j'en fais pas assez et comment faire plus. Et donc oui, si on me demande, je dirais là que oui, j'en fais pas assez. Pourquoi certaines personnes ne comprennent pas ce que je dis? Pourquoi parfois... j'ai l'impression qu'il y a des incompréhensions et je me dis que peut-être que c'est de ma responsabilité, c'est-à-dire c'est cette remise en question pour essayer de mieux me faire comprendre. C'est-à-dire, pour revenir à la pensée planche, je me dis, en fait, pourquoi des personnes même sérieuses, des chaînes de télévision même sérieuses, en fait, puissent cataloguer ce livre négativement alors qu'ils ne l'ont pas lu. Alors, peut-être que je ne me suis pas fait comprendre, en fait. Donc, quoi, il y a une remise en question. Et c'est vrai qu'il y a des fois... Pas du découragement, mais parfois on voudrait que les choses avancent plus vite. Et pourtant, moi qui travaille sur le sujet, je sais que le racisme a une profondeur historique tellement longue que ça peut pas changer du jour au lendemain. Mais on voudrait, parce que c'est que moi je sais qu'il y a des enfants qui souffrent. Il y a des adultes qui souffrent, il y a des papas qui souffrent, des mamans qui souffrent. Et c'est pas juste de souffrir. C'est pas juste. Alors qu'on n'a rien fait.
Merci Lilian Thuram. On se retrouve pour la dernière. Demain, épisode 5, changer le monde. Et j'ai mis un point d'exclamation. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue. Chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Nicolas Mathias, réalisation Somanina, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.